Nîmes.
Le TGV à destination de l'île Flandre va partir.
Au cœur des Flandres, ce maraîcher cultive 3 hectares de légumes bio.
Ici, entre le vent, la pluie, c'est pas gagné.
C'est valable pour tous les produits de Bertrand. On voit que c'est fait le plus naturellement possible parce qu'ils sont pas tous calibrés, ils vont pas faire tous la même taille. La cuisine, c'est ça. Faut prendre des super produits de chez nous et faire du mieux qu'on peut avec. C'est ce qui a fait la grandeur de la cuisine française. On peut avoir des flamiches. Les flamiches, c'est vraiment c'est la pizza un peu du Nord.
Moi, j'adore tout ce qui est à base de pâte à pain. Donc là, je suis chez moi.
Bienvenue dans le Nord.
On va déguster et t'enchanter de dresser le couvert à Lille. Bonjour à toutes et tous. Ah ouais, le public lillois est chaud, c'est bien ce que l'on savait. Lille 3000 Utopia, c'est la raison qui explique notre présence ici au Tripostal, un centre d'art situé juste à côté de la gare. Et Lille 3000 Utopia, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas cette manifestation d'envergure quasiment nationale, c'est la 6e édition d'une saison culturelle qui a lieu tous les 3 ans dans la métropole lilloise et dans la région des Hauts-de-France et qui interroge cette année, jusqu'au 2 octobre, la nature et le rapport de l'homme à son environnement à travers des événements, des rencontres, des expériences nouvelles et des créations. La cuisine, l'alimentation et la gastronomie sont justement des lieux de réflexion et des terrains d'expérimentation sur la nouvelle donne écologique. C'est ce que l'on va voir avec le chef de file de la gastronomie nordiste dans tout ce qu'elle a de vivante et de respectueuse. On est ravis d'accueillir Florent Laden. Bonjour.
Bonjour.
Une table étoilée qui a même retrouvé cette année son étoile, c'est l'auberge du Vermont à Boskop, au cœur des monts de Flandre.
Boskep.
Boskep, oh là là, ça commence, je suis désolé. Boskop, je vais pas être super à l'aise avec certains lieux dits, mais je vous invite, chers amis, à me corriger, évidemment. Blompot, Bierbuck et Blomoke, ça va?
C'est ça, bravo.
Bon, 3 tables au cœur du Vieux-Lille, ainsi que les staminets, je vous laisse le prononcer.
Anostoke et Blomoke.
Vous nous dites en une phrase ce que c'est?
C'est un estaminet qu'on a repris dans la brasserie historique de copains à nous. C'est la brasserie du pays flamand. C'est là que tout a commencé pour eux. Et on fait une cuisine traditionnelle d'estaminet avec toujours la petite note funky.
Alors je connais tout de vous et de tous vos établissements, mais alors ça, je ne m'y suis pas encore attablé. J'ai hâte. Florent Laden, vous allez le comprendre, chers amis, et tout sauf un chef solitaire. C'est même un chef à la tête d'un écosystème, j'ai envie de dire, à la fois écologique et social. Vous allez nous expliquer votre démarche. Et vous êtes là aussi pour cuisiner, cher Florent. Un petit indice?
Légumes.
Ah, et local, évidemment, ça va sans dire. On est aussi ravis d'accueillir, en parlant de légumes, Bertrand de Vienne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maraîcher au marché de Notteboom. Est-ce que ça va, l'accent? Notteboom.
C'est ça, les jardins du Notteboom.
On est à Bailleul.
Dans le Nord.
Dans le Nord, hein. On n'est pas loin de la frontière belge d'ailleurs, je crois.
Exactement.
Pas loin non plus de chez Florent Laden.
Exactement.
Pour son auberge à la campagne.
C'est ça.
Et vous cultivez en agriculture biologique des légumes et des plantes aromatiques extraordinaires. Vous nous avez apporté que du local, des pépites potagères.
Un fenouil de 4 ans d'âge.
Ah bah oui.
Juste pour la déco.
Il est impressionnant celui-ci, c'est carrément un arbrisseau. Vous l'avez apporté dans son pot.
C'est ça.
Et puis d'autres variétés locales,
voilà,
qu'on va découvrir ensemble.
Magnifique.
Nous avons également à nos côtés une habituée de notre plateau, c'est, pourrait-on dire, la locale de l'étape, Marie-Laure Fréchet. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste gastronomique à Lille, vous avez plusieurs domaines de prédilection. Hein. D'ailleurs, on a fait beaucoup d'émissions sur ces sujets. Le pain, la bière, la frite, l'alimentation durable. Vous avez aussi créé Mange Lille, le festival qui secoue chaque année les papilles de Lille et de sa métropole. Et vous avez choisi de nous raconter aujourd'hui quelques produits d'ailleurs, mais made in Lille.
Exactement, voilà, on va explorer cette notion de produit local ou de produit d'ici et d'ailleurs.
C'est voilà. Ça, comme par exemple une excellente mozzarella, ouais.
Elle est belle.
Une mozzarella nordiste fabriquée avec du bon lait du coin, c'est tout à fait étonnant et je crois que c'est délicieux. Elle est sous le nez d'Elvira d'ailleurs. Bah justement, ils ont fait le voyage avec nous. Ce sont mes copains de micro depuis le début de cette émission en 2010. J'ai nommé ou je nomme Elvira Masson, Dominique Hutin, bonjour les amis.
Bonjour à toutes et tous.
Elvira.
Alors écoutez, moi je vais partir pour la Belgique pour mieux revenir ici.
Très bien, ça me va comme
c'est
programme.
C'est un peu énigmatique.
Oui, mais c'est une énigme qu'on va résoudre dans le courant de cette émission. Et Dominique?
Ouais, je trouve l'ambition d'Elvira un petit peu modeste. Moi je suis parti dans le futur.
Carrément. Est-ce que ce futur serait mousseux et liquide?
Accessoirement, oui.
D'accord.
Voilà, solution des jeux tout à l'heure.
On n'en dit pas plus. On va déguster sur votre poste de radio. On va déguster également en podcast. Et pour retrouver nos coups de cœur, nos adresses, nos recettes, nos bons plans et notamment à Lille, vous connaissez le chemin, franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Et si, pour instaurer une ambiance chaleureuse et décontractée sur notre plateau, on se préparait un petit café? Je me tourne vers Florent Laden. On n'en dit pas trop. On a distribué d'ailleurs cette boisson noire et chaude dans le public de Lille au Tripostal. Qui aurait le courage ou l'envie de nous dire ce qu'il en pense?
Bonjour, Hélène.
Bonjour, Hélène.
Bonjour. Écoutez, c'est assez sucré, c'est surprenant.
Mm-hmm.
C'est cacaoté et ça a un arrière-goût un peu de café également. Donc c'est très très bon.
Très bien. Est-ce que vous auriez une idée des ingrédients qui composent cette boisson?
Ouais, j'ai une petite idée.
Mm-hmm.
Ça pourrait être de la chicorée, quelque chose comme ça.
Alors, on va se tourner vers Florent. Est-ce qu'il y a de la chicorée?
Il y a essentiellement de la chicorée, effectivement.
Bravo. Parce que ça a l'odeur du café, la couleur du café, la saveur du café, ce n'est pas du café. Est-ce qu'on a le droit d'appeler ça, un peu vulgairement, un ersatz de café ou un succès d'année de café, Florent?
Je pense qu'on peut l'appeler comme on veut. Ce qui est important, c'est d'acheter de la chicorée chez ma copine Agnès Lutin. ou à plage, ce qui est important, c'est de consommer en toute conscience. Et oui, il y a de la chicorée, mais il n'y a pas que de la chicorée.
Alors, est-ce que quelqu'un aurait éventuellement... d'autres pistes sur un autre ingrédient qui composerait cette boisson, Dominique?
Moi, je l'ai renversé deux fois, donc je vais essayer de tenter un peu ça.
Ah ouais.
Je trouvais qu'il y avait une petite finale très légèrement épicée, mais très 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 finement épicée.
D'accord, c'est épicé.
Je vous rejoins, chère spectatrice, sur le caractère un peu torréfié et un peu chocolaté aussi, côté noir, un peu sec d'ailleurs.
Ouais, Elvira.
Ça peut pas être ça, mais il y a une note de réglisse en tout cas. Il y a un côté ça, un peu réglissé.
Très réglissé. Alors ça,
c'est super bon. Mais...
C'est vrai que c'est une aromatique réglissée. Ouais. Pour autant, je crois pas qu'il y ait de réglisse.
Il y a pas de réglisse, non. Il y a du malt du malt acide pour donner le corps. Parce que si on met que de la chicorée et de l'eau, je trouve que ça fait vraiment penser.
Des frites.
Au café, pas encore après.
Si on met que de la chicorée.
De la chicorée, je trouve que ça fait un peu penser au café que tu vas avoir chez ton oncle qui est très radin là. Tu sais qu'il a passé 3-4 fois. C'est un peu trop flotteux à mon goût. Il faut quand même un peu de corps. Donc le malt va donner ce corps, le côté un peu fermier, le côté rond, sucré, parce qu'on n'a pas ajouté de sucre. Tout à l'heure, Hélène parlait de côté rond de sucre, mais c'est juste le malt, c'est le saccharose. Et pour le côté un peu noisette, c'est la deuxième graine qui est torréfiée aussi, du coup. C'est la graine de tournesol.
La graine de tournesol, tout ça est torréfié. Et ça donne une boisson très équilibrée entre suavité, rondeur, avec cette petite pointe d'acidité, cette fraîcheur que j'aime bien et qui rend cette boisson jamais écœurante. Très franchement, c'est un franc succès. Vous le servez où, ce café?
On le sert partout.
Partout, dans tous vos établissements?
Dans chacun de nos établissements, oui.
Y compris dans la table gastronomique au cœur des Flandres.
C'est ça, partout. Au Vermont, à Lille, à Blaringhem.
Est-ce que vous avez des râleurs qui vous disent on aimerait bien un vrai café avec des graines de caféier qui viennent de l'autre bout du monde?
Évidemment.
Ah, et qu'est-ce que vous leur répondez?
Qu'on fait de très très bons cafés partout ailleurs, dans plein d'autres établissements. Quand c'est à Lille, je leur conseille d'aller voir des copains, parce que j'ai un copain qui fait un super café sur Lille.
Citez-le.
Café Mouda. Moi-même, je bois du café le matin parce qu'il me faut un peu de...
Parce que la chicorée, ça réveille moins.
Ça réveille moins, et puis bon, je dors peu, quoi, comme tu peux le voir.
Vous pourriez répondre à vos clients que vous êtes un cuisinier radical, mais radical au sens étymologique. Il y a racine dans radical. Et vos racines, elles sont surtout plantées très, très profond dans le nord et dans la région. Ça vous va ou pas comme adjectif radical?
Ça me va bien, la radicalité, ça peut être positif, tant que c'est pour construire quelque chose de différent, et puis tant que ça s'argumente, quoi, finalement.
Et c'est valable pour le café, mais finalement, pour tous les registres de votre cuisine, on va en parler évidemment dans un instant avec les légumes de Bertrand de Vienne, mais globalement, vous êtes, on peut le dire, 100% local.
On est en 100% local, parce qu'aujourd'hui, dire « oui, je travaille des produits locaux », c'est vite dit, mais ça veut tout dire et rien dire. Si on travaille des produits locaux que en saison, que quand Bertrand a ses mini-légumes, que quand Bertrand a ses fleurs de chou pak choy, oui, on travaille des produits locaux, mais le reste de l'année, Bertrand, il doit vivre aussi. Et puis nous, le reste de l'année, on continue à travailler des produits locaux, même quand il n'y a pas grand-chose.
Évidemment. Dans un instant, justement, on va croquer les légumes locaux de Bertrand de Vienne par tous les bouts et tous les goûts. On aime Lille et on aime M et son dernier titre dans ta radio. Quelle radio, à votre avis? France Inter, évidemment.
Je passe dans ta radio. Si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Mmh. cherche un moyen de communiquer depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime.
Plante sa fourchette à Lille et on va commencer notre exploration du garde-manger lillois. On va vous montrer que dans le garde-manger lillois, il n'y a pas que tous les clichés qu'on connaît bien. Hein. Partout en France, les frites, la fricadelle, les flamiches, évidemment. Ce sont aussi des légumes et notamment cette petite chose qui m'intrigue et que Bertrand Devienne a distribué à notre public. Regardez, ça fait du bruit, c'est croquant. Qu'est-ce que c'est ? Un mange-tout ?
Un petit pois mange-tout, oui.
Il est un peu bronzé, hein ?
Il est un petit peu fort bronzé et pourtant, il vient des Pays-Bas.
Il est pourpre.
Il est pourpre. Alors, il s'appelle Blauwschoker pour les spécialistes.
Et ça, c'est vraiment une variété hollandaise.
C'est une variété hollandaise. Après, on en fait ce qu'on veut des variétés. Les variétés, le voyage, nous aussi. Et donc, c'est une variété qu'on aime bien, qui pousse bien en début de saison sous serre et qu'on récolte là, donc trop tôt. Donc, ce qui fait qu'elle est, on sait tout manger comme un mange-tout.
Ça porte bien son nom.
Voilà. Et qui est excellente.
Qu'est-ce que vous en faites, Florent, de ce petit mange-tout néerlandais ?
Nous, en ce moment, on les grille. On les met dans une passette sur un gros lit de braise, comme ça, tel quel. Un petit coup de spot calotte d'huile.
Au feu de bois à la braise.
C'est ça, direct. Parce qu'en fait, chaque légume contient naturellement assez d'eau pour cuire comme ça. Dans chaque légume, il y a suffisamment d'eau de constitution pour cuire rôti ou à la flamme, directement.
Alors, à l'auberge du Vermont, il y a un superbe foyer comme ça où vous faites quantité de préparation directement au feu de bois, feu direct, flamme.
C'est ça.
Ce qui explique que d'ailleurs vous sentez un peu le feu de bois.
Ouais, je me suis excusé en arrivant, désolé.
Non, mais je vous en prie, on aime beaucoup cette odeur. Ça nous rappelle des souvenirs, évidemment. Comment, Bertrand Devienne, vous êtes retrouvé maraîcher avec votre femme Louise, qu'on salue, à Bailleul, au nord de Lille?
Eh bien, c'est toute une histoire. Louise était infirmière et moi, j'ai fait des études dans la mécanique que j'ai jamais fini. Parce que on fait trop la fête, en fait, à Lille. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé chez un paysan belge, un peu fou, qui l'est toujours d'ailleurs, qui m'a amené, lui, aux Pays-Bas. Donc c'était plus facile d'aller faire nos études agricoles aux Pays-Bas qu'en France. Donc
j'ai appris la langue. Et là, vous avez découvert ce mange-tout, non ?
Si, entre autres.
D'accord.
Bah, c'est là que j'ai découvert aussi l'agriculture, par ailleurs.
Donc, et la biodynamie.
Et la biodynamie. On s'est formé chacun de notre côté. Donc moi, j'ai passé 4 ans aux Pays-Bas et Louise, elle s'est formée en France, en Alsace. Et grâce à un agriculteur aussi de bord, que vous avez peut-être déjà rencontré et qui fait une fricadelle délicieuse, Grégory Delassue.
Et évidemment, Grégory Delassue, on est même allé lui rendre visite au marché.
Voilà.
Une fricadelle bio et paysanne exceptionnelle, saluons-le.
Et ben voilà, c'est aussi grâce à lui qu'on a démarré, qui nous a mis à disposition une parcelle. Et ensuite, on a trouvé un site où on pouvait s'installer plus sûrement, c'est à Bailleul. Donc une parcelle de 8 hectares d'un bloc, où il n'y avait rien. On a construit un bâtiment, on a planté des vergers, des haies, des arbres, une mare, et on s'amuse.
Un petit bientôt, écosystème naturel et particulièrement fécond, les jardins de notre boom. Alors, il n'y a pas d'explosion dans votre jardin, si ce n'est des explosions végétales?
Non, pas d'explosion, des explosions végétales. Et boom, en flamand, c'est un arbre.
Donc
notre boom, c'est un noyer.
Absolument. Combien de variétés potagères au cœur de ces jardins?
Alors, on a essayé de compter, mais on doit en avoir une cinquantaine. Donc, rien qu'en tomates, Louise cultive, on va dire, 15 variétés de tomates différentes. On s'amuse pas à compter, les stagiaires le font, bien ou pas bien. Mais en tout cas, il y en a qui s'installent. Donc on a des stagiaires qui sont installés comme voisins maintenant. Donc on a deux stagiaires qui sont à moins d'un kilomètre de la ferme. Et comme Florent crée autour de lui, ça crée aussi un écosystème. Parce que c'est bien de pas être tout seul dans son coin.
On vous a lancé un sacré défi, Bertrand de Vienne. Celui de nous faire une espèce d'inventaire à la Prévert ou un inventaire à la Vert. Parce que là, il est vraiment question de plantes potagères. On aime, on va déguster évidemment, explorer partout où on va en France, les ressources locales qui font aussi l'identité et le tempérament d'une région. Et là, en l'occurrence, on vous a demandé d'essayer de nous lister comme ça les quelques variétés potagères, souvent anciennes, caractéristiques de l'île et sa région. On va commencer par une sacrée laitue.
Voilà, la laitue lilloise.
Elle porte bien son nom pour le coup.
Ouais. Alors c'est assez marrant parce qu'on a un stagiaire cette année qui me dit « Ouais, mon père machin, il cultive cette truc, la laitue lilloise. » Ben, je dis « Tiens, tu tombes bien, il y a un mec qui nous a laissé un sachet qui s'appelle Monsieur Richard Boucherie du Centre de Ressources Génétiques. Et moi, organisé comme je suis, je l'ai laissé dans le frigo avec les autres semences. Mon stagiaire, il me dit « Pourquoi on ferait pas ça ?» Ben, je dis « Tiens, toi, tu vas prendre le sachet. » On t'a pressé des mottes et tu vas les semer. Et nous voilà aujourd'hui avec la laitue lilloise dans son pot.
Elle est là, la laitue, voilà. Elle parade sur le plateau dont on va déguster. S'il fallait la décrire pour ceux qui n'ont pas l'image, au hasard, nos auditeurs.
Une laitue bien paumée, avec des petites couleurs. Elle lutte contre la sécheresse, mais elle y arrive quand même. Et voilà.
Très bien. Et cette laitue, y en a un qui est tombé amoureux d'elle. C'est Florent Ladène, évidemment, parce que on précise quand même que vous travaillez depuis un moment tous les deux, et ça illustre d'ailleurs une solidarité sans discours bisounours, parce que c'est la réalité à Lille, certainement plus qu'ailleurs en France. Cette solidarité entre producteurs, chefs, il y a une entraide absolument formidable qui crée d'ailleurs la richesse de cet écosystème gastronomique.
Je pense qu'on a tous à cœur, qu'on soit chef ou producteur, maraîcher, éleveur ou pêcheur, de mettre à l'honneur notre terroir qui finalement est trop méconnu. Pendant quelques années, personne n'avait jamais entendu parler de la cuisine flamande, enfin il y a encore quelques années. Et du coup, vu qu'on est un peu revanchard, vu qu'on aime les challenges, on y va, quoi.
Et vous y arrivez d'une bien belle et talentueuse manière. Qu'est-ce que vous en faites de cette laitue lilloise?
Ça c'est un petit clin d'œil à la salade que mon papa faisait, donc c'est salade au fromage du Mondeca.
Sauf voilà. Que c'est pas tout à fait, elle a pas tout à fait justement le look d'une salade.
C'est ça, moi je l'ai cuite en fait, j'adore cuire les laitues, j'adore les griller ou j'adore les flasher à la vapeur, je trouve ça vraiment super bon. La laitue, tout le monde imagine toujours en salade crue c'est génial, c'est aussi un de mes légumes préférés, mais je trouve qu'elle s'exprime vraiment beaucoup plus quand elle est cuite. Cette laitue, je l'ai flashée juste vapeur, j'ai farci dedans de l'ail frais de chez Bertrand, évidemment. Il y a du fromage du Mondeca qui est fumé dedans et il y a quelques coulis dessus. Et au niveau des coulis, on a un coulis de feuilles de laitue, donc les plus petites, on les a travaillées en coulis. On a fait une mayonnaise aussi, il y a une crème de fromage, il y a du crouton et le quatrième coulis, qui n'en est pas vraiment un, c'est un kimchi, donc une fermentation d'ail frais que Bébert a ramené, les premiers qu'il a ramené, c'était quoi, c'est il y a un mois, tes premiers ail frais?
Ouais.
Ouais, donc c'est ça, quoi, un kimchi
donc,
un peu frais.
Là, on évoque kimchi, fermentation, lactofermentation, du piment aussi?
Lactofermentation avec du piment, des Flandres de l'année passée qu'on avait tenu comme ça, et puis oui. Voilà.
Sachant qu'à l'origine, ce kimchi, c'est une méthode de fermentation coréenne qui consiste justement à conserver du chou et éventuellement à le condimenter avec du piment. Voilà, un kimchi flamand. Preuve qu'on est ouvert sur le monde tout en restant local. C'est pas du tout l'idée d'être dans votre tour d'ivoire.
Non, je pense
que... de voir très très loin vers l'horizon.
Évidemment.
Mais en gardant vos racines.
C'est pas incompatible, loin de là. Quand on vient d'une frontière, on a deux choix, deux possibilités. Soit on se renferme sur soi-même, soit on s'ouvre à ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Moi, j'ai choisi de m'enraciner vraiment dans mon terroir. J'ai envie d'apprendre ce qui se fait ailleurs. J'adore voyager. J'ai eu l'occasion de le faire et j'espère que j'aurai encore l'occasion de le faire pour aller visiter et découvrir d'autres techniques et appliquer ces techniques aux produits qu'on a chez nous.
Très bien. Ça ressemble à une laitue braisée, zébrée de coulis avec des petits croutons. C'est absolument superbe, je le goûte avec les yeux, je veux pas avoir la bouche pleine, mais est-ce que quelqu'un saurait nous en parler dans notre public de cette laitue lilloise à la Florent Ladène?
Bonjour.
Vous vous appelez comment?
Léa.
Bonjour Léa, vous avez goûté?
Oui, j'ai goûté.
Alors
Bah c'est très intéressant, ça ressemble un peu à un hot dog
ouais,
végétal.
Carrément, quand on disait que c'était zébré de sauce.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manger de la laitue cuite.
Ouais.
Et c'est hyper bon en fait. Puis le petit goût fumé du fromage, là, ça rajoute quelque chose d'hyper intéressant.
Vous en parlez très bien, voilà. Léa. Merci beaucoup. Donc, recette super validée par Léa. Bertrand de Vienne, à l'instant, Florent, il vous appelle Bébert, je crois.
Oui.
Donc, on va faire pareil que lui.
Oui.
Bébert,
pardon.
Il parlait d'ail il y a un instant. Il y a aussi, précisément, et vous nous l'avez apporté.
Oui.
Un ail d'extraction super locale.
L'ail Gaillant.
Gaillant, G-A-Y-A-N-T. Qui connaît dans le public l'ail Gaillant, soyez honnête. Eh ben, il y a une main qui se lève. Monsieur, bravo. Deux. Sur pas mal de personnes qui sont venues nous voir. Preuve qu'il y a encore des progrès à faire dans la connaissance du terroir local. L'ail Gaillant, on va dire que c'est un ail rose. Et c'est un ail vraiment du coin.
C'est ça, c'est un ail du coin. Donc ici, les agriculteurs disent on a une terre à ail ou on n'en a pas. Mm-hmm. Nous, apparemment, c'est une terre à ail. Ça marche bien. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait. Il est récolté au stade aillé. Donc ça veut dire que, bon là c'est un peu un stade, on va dire, bâtard, parce que le bulbe commence à se former. Donc on est presque sur l'ail frais.
Parce que l'aillé au départ, alors ça c'est les Bordelais qui connaissent bien la chose, c'est vraiment un ail élancé, qui n'a pas de renflement du bulbe.
Exactement.
Il est vraiment tout droit et longiligne, avec beaucoup de fans vertes.
C'est ça.
Et en général, on le fait sauter à la Bordelaise.
Exactement.
Moi j'ai adoré ça à Bordeaux.
Exactement.
Là il commence effectivement à faire un peu un bulbe. Hein.
Voilà. Vous avez bien révisé. Donc nous, on est encore novices, on découvre tout le temps. Et c'est intéressant d'échanger avec des vieux de la vieille qui ont la méthode « l'ail, ça se plante semaine 6, sinon c'est pas de l'ail ». On s'amuse.
Vous vous amusez. Et
voilà.
L'ail, vous le vendez aussi vente directe ?
On vend en vente directe. Donc on a un site de vente, colloqueflandre.fr. On vend sur le marché à Bailleul. Et après à Florent et à une coopérative qui vend au réseau Biocoop. Même mon collègue qui livre aussi Florent, Driss Delanotte, se fout de moi parce que je plante de l'ail tout le temps.
Ouais. Alors Driss Delanotte, on évoque aussi une star du maraîchage. Alors il faut légèrement passer la frontière. Je crois que c'est le jardin des mille couleurs.
Le monde.
Le monde des mille couleurs.
Le monde des mille couleurs, je me trompe à chaque fois. Et pourtant ouais. Ces légumes, je les ai goûtés un paquet de fois dans les tables locales. Driss Delanotte, c'est quand même quelqu'un d'incroyable.
Oui, c'est le Bébert, mais de l'autre côté de la frontière, côté belge, un poète du légume, quelqu'un qui va vraiment travailler les fleurs, qui m'a appris énormément de choses. J'ai commencé à travailler avec Driss à ses débuts, comme avec Bébert finalement. Et Driss et Bébert sont des gars qui font que en fait. Même si tu penses connaître quelque chose à la cuisine, quand tu vas chez eux, quand tu discutes avec eux, tu vois le végétal autrement. Et même si t'as déjà une sensibilité au végétal, tu vois vraiment ce monde différemment.
J'ai entendu dire un truc dingue, qui montre justement ce système d'entraide qu'il y a entre vous, c'est que Bébert et Driss, des deux côtés de la frontière, s'entendent entre eux pour vous livrer les bons légumes, et vous, à la limite, vous leur laissez une confiance aveugle. C'est-à-dire que vous les laissez faire.
Oui.
C'est eux qui se concertent entre eux, c'est ça, hein?
C'est ça. On se rencontre deux fois par semaine. On s'échange les produits. Moi, je livre à l'Auberge du Vermont et à nos stockés. Et Driss s'occupe de l'île avec un de ses employés. Et lundi soir, on boit un coup ensemble.
Voilà, c'est ça. Ça finit toujours autour d'une bière à Lille. C'est ça qui est chouette. Marie-Laure Fréchet, en parlant justement de variétés potagères locales, vous avez un super plan à indiquer à notre public et nos auditeurs et auditrices.
Oui, je voulais vous parler des graines Bokeh. Donc, c'est une entreprise qui est installée en Pével. La Pével, pour vous situer, enfin, les Lillois connaissent, c'est le sud-est de l'île, on va dire. Voilà. Et cette entreprise, donc, produit, conditionne et distribue des semences, des graines. Et à son catalogue, a une trentaine de variétés anciennes. Donc, justement, la laitue lilloise, le flageolet, on va peut-être en parler après avec Bertrand. La carotte de Tilque, la carotte de Saint-Valéry, la mâche verte de Cambrai. Voilà des variétés qu'on a un petit peu oubliées.
Absolument. Bah, en parlant de flageolet, je les ai à la main. Flageolet blanc des Flandres. Alors moi, j'avoue que je connaissais d'autres variétés locales. Pardon.
J'ai un petit cadeau aussi quand même, parce que j'ai trouvé quelque chose pour.
Ah, je le connais. J'ai déjà cultivé même. Ouais, le radis Gaudry. En plus, bonne nouvelle, il est délicieux. Je touche aucun droit d'auteur sur les ventes de ces graines, évidemment. Flageolet blanc des Flandres, je le disais, merci beaucoup pour le cadeau, chère Marie-Laure. Je connaissais d'autres petits lingots, notamment Soissons n'est pas si loin que ça, avec le haricot de Soissons. Il y a d'autres exemples. Celui-là, c'est pas forcément le plus connu et
non.
Il est délicieux.
Oui. Alors, il existe aussi le lingot du Nord,
ouais.
Qui, lui, est beaucoup plus reconnu et distribué aussi en supermarché grâce à des gens du coin. Il y a le flageolet vert et donc le flageolet blanc de Flandre. selon notre collègue du Centre de ressources génétiques, Richard Boucherie, c'est vraiment le truc typique de la région. Parce qu'en plus, il est disponible tout le temps, comme on arrive à le sécher. Et il est excellent. Donc on a essayé avec lui de cultiver du flageolet blanc de Flandre. Malheureusement, on n'a pas vraiment réussi. Du coup, on a laissé les autres le faire à notre place. Parce qu'il faut savoir qu'après, il faut le sécher, trier, écosser et tout ça. Et donc, il y a d'autres collègues qui livrent encore Florent avec ce flageolet. Ils le font très bien.
C'est bon, beaucoup de boulot, quoi.
Et ben, dans un instant, on va justement déguster une petite surprise à base de flageolet préparée par Florent, justement, parce que vous savez quoi en faire, hein, de ce flageolet blanc des Flandres, de Flandre. Si je regarde le paquet que m'a offert Marie-Laure Fréchet.
Il y a une petite particularité avec le flageolet, on mange la graine. C'est un des rares légumes dont on mange la graine qui sert aussi à replanter.
D'accord. Très intéressant. Dans tout cet univers végétal et local, est-ce que notre ami Dominique Hutin saura faire l'accord dans le verre? Et ma réponse tout de suite.
On va déguster sur France Inter.
Alors Dominique,
Hors micro, on avait évoqué une petite enveloppe de bienvenue tout à l'heure. Je ne l'ai pas reçue. Ça pourrait influencer un petit peu le contenu de ma chronique. Bon, ça ne va peut-être pas changer tellement de choses. Alors, on est à l'île 3000, qui est une saison culturelle, avec une thématique un peu forte cette année qui s'appelle Utopia. Et donc, Utopie, moi j'ai questionné ce qu'est l'utopie, c'est cette chose qui peut-être adviendra, on ne sait pas. Comme mon enveloppe d'ailleurs, hein, pas de nouvelles. Donc, je me suis projeté dans le futur et j'y ai croisé plusieurs choses, notamment du vin en canette. Comme les sodas, hein, voilà, c'est ça. Et donc, je reviens du futur, mon conseil, n'y allez pas. Sincèrement. C'est tout bonnement infect. C'est la pire dégustation qu'il m'a été donné de faire depuis 25 ans, à peu près.
C'est rassurant.
Des vins dilués, des blancs qui ressemblent au white spirit, des rosés qui ont la valeur de l'eau, c'est vraiment inintéressant. Et même, je dirais que pour certains, on est à la limite de la répression des fraudes, dans le sens où certains de ces vins sont adoubés par une appellation d'origine contrôlée. Donc c'est tout à fait inintéressant au possible, et ça laisse penser au final que ces vins en canette poussent dans des agences de marketing au final. Alors heureusement, j'en ai sauvé quelques-uns, vous pouvez aller sur notre page, j'en ai sélectionné une dizaine, vous trouverez les coordonnées, les prix. Comme
ah, vous en avez quand même sauvé quelques-unes.
Quelques-unes, mais objectivement, c'est pas très passionnant. Alors il y en a deux ou trois, vous le verrez, qui sont réellement intéressantes. Si je suis revenu du futur, quand même, à un moment, il a fallu que j'atterrisse sur Terre, et il se trouve que j'atterris ici, à Lille. On est dans une terre un tout petit peu brassicole, qui m'a redonné quand même le sens de la vie, le goût, le goût des canettes aussi, etc. Et donc là, je me suis fondu d'une grande dégustation. Là où j'ai goûté à peu près 35 vins en canette, j'ai goûté 120 bières. 120 bières.
Il est toujours vivant.
Alors c'est autre chose. Il faut avouer que là où le vin s'est perdu dans l'aluminium, au contraire, dans l'univers de la bière, eh bien, on a logé une part du génie humain. C'est vraiment tout à fait autre chose. C'est aussi ce que j'ai fait dans vos verres, d'ailleurs. J'ai fait les niveaux. Vous pouvez commencer à les goûter. Alors c'est un petit extrait parce que j'en ai sélectionné trois pour les besoins de l'émission. Avec d'abord un vrai grand coup de cœur. C'est la brasserie Cambier. Alors c'est totalement le hasard. Il se trouve qu'elle est à 5 km de Lille. 5 km de Lille, c'est à Croix. Vous avez ici une IPA avec un double houblonnage à froid. Alors elles sont troubles, ça peut désarçonner les buveurs un petit peu classico-classiques. Mais là, je trouve qu'il y a des acidités. Tout à l'heure, on était sur le domaine du végétal avec Florent. Je pense que là, il y a un pont naturel, notamment parce qu'on a des bières qui sont extrêmement aromatiques et aussi portées et par les amers et par la fraîcheur. Donc ça, c'est intéressant. Toujours dans le pays lillois, un tout petit peu plus loin, on est à 20 km, je dirais, à l'ouest de Lille. C'est la brasserie du Pays Flamand, on est à Merville. Là aussi, on a trouvé des choses très, très intéressantes. Et puis, j'ai élargi aussi ma sphère de travail, puisque vous trouverez aussi des bières, par exemple, bretonnes, comme celles qui circulent de chez Merlin, par exemple. Vous allez trouver aussi Grizzly ou Calibo en Moselle. Ça, c'est tout à fait magnifique. Et donc, des Irlandaises aussi, des Danoises, etc., etc. Alors, je me suis entouré pour faire tout ça, ces 120 bières. Je me suis entouré, un peu la crème de la mousse, entre guillemets, avec ceux qui les fabriquent. Par exemple, c'est un brasseur qui s'appelle Renaud Tignon, qui m'a aidé. Brasserie de la Biergerie, c'est à Caen. Je me suis entouré aussi par celles qui les vendent, c'est-à-dire une caviste à bière qui s'appelle Christelle. C'est la cave Beers à Cherbourg. Et puis je me suis entouré aussi par ceux qui racontent la bière. Et là, c'est un journaliste biérophile qui s'appelle Olivier Malcura, qui s'occupe de bière actu et qui est lillois. Et son podcast s'appelle Podcast Oh, canard podcapsuleur. Oui, bah, c'est marqué sur le site, vous verrez bien.
Vous nous redites comment ça s'appelle ce podcast?
Non, mais c'est parce que vous m'avez fait goûter plein de trucs et au bout d'un moment, tout se mélange, voilà, y compris les paroles. Alors, non seulement il a ce podcast, mais il s'occupe aussi d'un magazine en ligne qui s'appelle Bière Actu. Là, c'est plus facile. Il faut quand même faire un tout petit examen sur ce qu'est la canette, parce que effectivement, ces canettes, elles ont quand même été l'apanage de l'industrie pendant très longtemps, et puis elles charrient quand même pas mal de préjugés dans leur sillage. Et aujourd'hui, bizarrement, elles sont plutôt chéries par un univers qui est assez rebelle, lui, qui est l'univers craft, artisanal, qui est très indépendant. Et donc, j'ai interrogé Bois de Boisson, qui est une espèce de groupement de fabricants de canettes, pour dresser une espèce d'état des lieux. L'intérêt de la canette, c'est que d'abord, elle est opaque. C'est intéressant pour préserver l'intégrité de la bière, notamment son caractère aromatique et amérisant, du houblon qui a tendance à se faner assez rapidement. Donc on la préserve. L'autre intérêt, c'est que comme elle est opaque, on se préserve de la lumière, qui est l'ennemi numéro un de la bière. Ensuite, on peut examiner aussi un volet social. Pourquoi ? Parce que c'est une consommation qui est nomade, d'une part, et puis aussi c'est une petite centilisation. Donc ça invite à une consommation qu'on va dire raisonnée. Évidemment, c'est un support de créativité tout à fait dans l'époque, c'est assez déluré, c'est assez intéressant. Puis en termes d'environnement, c'est intéressant parce que c'est léger, c'est peu encombrant en termes de transport. Et puis c'est aussi recyclable à l'infini. D'ailleurs, quand vous recyclez une canette, assez souvent, elle peut se retrouver transformée et dans le circuit commercial 60 jours après. Donc vous voyez, c'est une espèce de circuit court. Et il y a aussi quand même une dimension sociologique parce qu'en Allemagne, on recycle à 100%. Et nous, on est très loin de ça, on est à 7 canettes sur 10. Donc il y a un geste qui n'est pas encore inscrit en France, qu'il faut peut-être d'ailleurs réinstaller la consigne, pourquoi pas. Et les autres freins, c'est notamment l'habitat vertical. Évidemment, quand on habite en HLM ou en habitat collectif, le stockage est un tout petit peu plus compliqué qu'à la campagne. Donc ça compte beaucoup en termes de gestes. Et puis, comme c'est une consommation nomade, c'est ce qui explique parfois vous trouviez des canettes dans la nature. Voilà. Dernière chose, ça ne pèse que 12 grammes, c'est intéressant, mais les producteurs sont chinois et russes, et en ce moment, je crois qu'il y a quelques tensions pour les approvisionnements. Donc ça peut aussi contrarier cette histoire-là. Reste que les contenants traditionnels, il y a des grandes tensions sur le verre, sur le bouchon, sur le papier. Donc tout ça prime pour s'intéresser à la canette. Donc allez voir les cavistes spécialisés, ils vont vous chanter la petite chanson de la canette, ou alors ce qui est l'hymne officiel. François-Régis, écoutez bien.
Oula.
De l'île 3000. Vous allez le découvrir, c'est pas très long. Suis, sti, play, boy, bière au monoï, à toutes ses plaires, bière pour ta mère. Suis, sti, brasseur, bière de belle-sœur, je déclare ma flamme, une bière, une femme. Reine de la mousse, bière bonne, bière rousse, j'aime ta famille, une bière, une qui. Amour sincère, bière à la bière, ce soir, sois prête. Reine des canettes.
Oula, on arrête la bière pour Dominique.
Voilà. Et les 120 bières sont sur notre site. Vous pourrez évidemment prendre connaissance avec une bibliothèque brassicole pour se faire mousser.
On est rassuré. Un grand merci, Dominique. Est-ce que vous nous confirmez, Marie-Laure Fréchet, que la scène brassicole à Lille se porte particulièrement bien?
Oui, tout à fait. On a parlé de la brasserie Canvier. Moi, j'aime aussi beaucoup la brasserie du Singe Savant, par exemple, ou la brasserie Célestin. Voilà.
Et Florent, d'ailleurs, à Bierbuck, dans mon souvenir, c'est vraiment pour le coup un estaminet populaire avec des prix très accessibles au cœur du Vieux-Lille. Dans mon souvenir, vous y faisiez de très belles bières.
Oui, on continue à brasser nos bières. Là, on est en train de déménager justement la brasserie. Mais dans les bières qu'on a brassées ces temps-ci, il y a une blanche à la feuille de laurier, il y a la saison des foins au foin de l'auberge. Pas mal de bières vraiment cool. Une sour à la moutarde, étonnamment, elle a un goût d'asperge. J'ai pas compris pourquoi, mais voilà, c'est rigolo et c'est génial.
Allez goûter les bières légèrement barrées et toujours très inspirées de Florent Laden et toute son équipe. Citons d'ailleurs les deux compères qui vous accompagnent dans cette aventure, même si vous êtes à la tête d'un écosystème dont on va parler dans un instant.
Donc le Beer Bug, ça se fait avec Kevin Roland et Clément Dubrulle.
On les salue, ils participent activement évidemment à votre aventure. Est-ce que vous avez déjà goûté la bière belge au stand Bonsoir? Non, personne. C'est une bière artisanale de haute fermentation, brassée dans la ville côtière d'Ostende, en hommage à
Arnaud.
Voilà, Arnaud, disparu le 23 avril dernier, laissant de très nombreux fans orphelins en France et en Belgique. Arnaud, servi sur un plateau, avec la mousse, s'il vous plaît, c'est choisi par notre programmateur musical, Djoubaka.
Je les aime tous, comme moi-même. Les biens sont bien, mais les mieux sont mieux. J'ai vu la pauvreté à Saint-Tropez. Popstar, frustré, la vie est belle.
pas cher. La vie est belle, chic et pas cher. J'ai connu un rapper avec une chaîne en or. Il crie motherfucker même quand tu dors. Tout le monde cherche la vérité. Ils chantent les mêmes tubes d'été. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher.
Qui est pas cher, d'Arnaud, on va déguster. Ne perds pas le Nord, nous sommes à Lille 3000 Utopia devant le public chaud bouillant du Tripostal.
On va déguster sur France Inter.
Lille 3000 Utopia, une saison culturelle qui se tient dans la métropole jusqu'au 2 octobre prochain avec des dizaines de manifestations, d'événements autour d'une thématique, on l'a dit, la nature, l'écologie, le rapport de l'homme à son environnement. Vous-même, Marie-Laure, qui est très active sur la scène culinaire et gastronomique lilloise, vous allez mettre les mains dans le cambouis, dans peu de temps d'ailleurs.
Effectivement, avec notre collectif Mange Lille, on s'associe à Lille 3000 et aussi également à Art.M pour organiser un événement qu'on a appelé Effet de serre. Donc on joue un petit peu sur les mots parce que cet événement va prendre place dans la serre tropicale du Jardin des Plantes. L'idée est de sensibiliser à l'impact de l'alimentation sur le réchauffement climatique.
Qui participera à cet événement Effet de serre ?
Alors, on continue à filer la métaphore. On a pris des jeunes pousses de la gastronomie. Voilà, des têtes qu'on connaît moins. Et notamment des femmes. On a trouvé des femmes chefs. Et ça, on est bien contents de ça. Donc, notamment Florine Verhelen du restaurant Brigand. Anne Copin du NAM. On a aussi Slava, chez Fleur de Sel à Comines. Et puis, des garçons quand même aussi. On a Michael Massaro et Thibault de Holy Dogs. On a Julien Duchossois du Nous. Et Lucas Tricot et Elisa Rodriguez de Suzanne. Voilà.
Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent assister ou participer à cet événement.
Alors, ça a lieu le 31 mai et le 1er juin. On réserve sur le site d'Utopia Lille 3000. Et en fait, ce sera, voilà, une sorte de pique-nique végétal. Parce que, évidemment, qui dit impact de l'alimentation sur le réchauffement climatique, on veut sensibiliser à cette importance de végétaliser nos menus. Et puis, voilà, comme on en parle depuis le début de l'émission, avec le végétal, avec les légumes, on fait de très belles choses.
Effet de serre, balade culinaire et végétale autour des jeunes pousses de la gastronomie à Lille. Prochainement, signalons aussi, Marie-Laure Fréchet, que vous êtes l'autrice d'un livre essentiel qui devrait se trouver dans de très nombreuses cuisines, l'Encyclopédie de l'alimentation durable aux éditions Flammarion. Et puis Lille est décidément une ville pleine de ressources avec une grosse énergie sur la scène food. Même si j'aime pas trop les anglicismes. Et vous avez en épi curieuse dégoté pour nous des pépites locales, mais qui pourraient avoir un peu l'accent d'ailleurs.
Oui, alors là, on va moins parler des chefs, on va parler plus des produits. Et j'avais envie d'interroger un peu cette notion de produit local. Bertrand disait les variétés voyagent, donc les produits et les recettes voyagent aussi. Et on peut aussi les revisiter ou les fabriquer avec des ingrédients d'ici ou au moins un savoir-faire local. Donc voilà, pour commencer avec l'apéritif, avec cette hydromel. Voilà, l'hydromel traditionnel, on a en tête souvent le chouchen breton, quelque chose d'assez liquoreux, avec un titre alcoolique assez élevé. Là, on a un jeune Lillois qui s'appelle Paul-Augustin Delattre et son associé Marc-Antoine. Ils ont eu l'idée d'inverser les curseurs en quelque sorte. Paul-Augustin a une formation de sommelier et s'est souvenu d'un vin pétillant de miel qu'il a dégusté en Royaume-Uni et qu'on appelle là-bas le Sparkle Mead. Et donc, en fait, sur ce principe, il a travaillé trois cuvées à base de miel monovariétaux issus de filières durables. Donc, il a une cuvée à base de miel de litchi de Madagascar, une autre à base de miel de lavande de Provence et un miel de tilleul de la forêt d'Alate. La forêt d'Alate, c'est, on va dire, au sud des Hauts-de-France,
très bien.
Dans l'Oise.
Il n'y a pas que des miels lointains, on est rassuré. L'hydromel, voilà. Qui s'appelle bulle de ruche.
Bulle de ruche, et en alcool, on est à 4,5 et ça marche aussi très bien dans les cocktails.
Et bien, ça reste très raisonnable. Plus étonnant encore, une mozzarella nordiste.
Voilà, c'est la mozzarella de la famille D'Annunzio. Alors à Lille, tout le monde connaît Gilberto et sa sœur Lorena. Gilberto, c'est le monsieur Italie de Lille, à travers ses restaurants italiens et surtout son épicerie La Bottega, où on trouve les meilleurs produits d'Italie sélectionnés avec énormément d'amour. Et en fait, pour alimenter ses restaurants, Gilberto a eu l'envie de fabriquer en fait une mozza sans intrants. Alors pourquoi sans intrants? En fait, c'est souvent ces mozzas avec intrants, c'est des mozzas qui sont faites plus vite et qui se conservent mieux. Et voilà, lui, ce qu'il cherche, c'est à garder effectivement la saveur de ce bon lait. Et donc, en fait, c'est à son fils Enzo qu'il a confié la tâche de fabriquer cette mozza. Donc, il est parti en Italie, il s'est formé auprès des meilleurs fromagers. Et il fabrique maintenant cette mozza aux mines de l'homme, avec du lait qui vient des WEP. Voilà, donc c'est 600
cas,
litres de lait par jour pour 75 kilos de mozza.
Et on la trouve à Lille, cette mozza?
Alors, on la trouve évidemment sur les pizzas de la Bottega et des restaurants de Gilberto. On la trouve à l'épicerie et puis également une excellente ricotta pour farcir les raviolis.
Et oui, ricotta, cuit deux fois, recuite en quelque sorte. Et la mozzarella, j'en connais une qui a croqué à pleines dents dedans.
On a croqué avec Florent, elle est vraiment très bonne. Donc c'est une mozzarella, pas au lait de bufflon, on l'a compris en écoutant Marie-Laure. C'est du lait de vache, cru. Et elle a ce côté effectivement très ferme et très frais qu'on aime beaucoup de la mozzarella, avec une petite acidité lactique subtile, délicate, très...
Oui, on sent bien le goût du lait encore.
Oui, on sent bien le goût du lait, ouais. Mais ça reste subtil, c'est très bon.
Validée la mozzarella.
Super texture.
Elle est validée, très bien. Et puis on finit, allez, par une touche sucrée. Est-ce que vous avez goûté, Bébert, Bertrand, de Vienne, cette tablette qu'il y avait sous vos yeux?
Ah non, pas encore.
Ah, allez-y.
Marie-Laure, vous la gardez pour elle, je pense.
Eh ben, vous la dépliez, vous la
dépliotez, merci.
Vous la croquez, vous
merci.
Nous dites ce que vous en pensez.
Alors, c'est le chocolat Encuentro. Encuentro, ça veut dire rencontre en espagnol. C'est la rencontre de Candice et d'Antoine avec le cacao. Cette rencontre, ils l'ont fait d'abord en République dominicaine, à Punta Cana. Ils ont eu un vrai coup de cœur pour ce cacao. Et donc, ils ont installé une première manufacture là-bas, Bean to Bar, donc de la fève à la tablette. Ils sont très peu, les chocolatiers, à travailler ainsi. Hein, c'est 1 à 2% maximum. Et puis, ils ont été forcés de rentrer. Alors, ils ont d'abord ouvert une autre manufacture à Montreuil, près de Paris, avant de revenir chez eux, ici, à Lille, et d'ouvrir à Saint-André-les-Lilles, dans une ancienne filature. Ils sont maintenant bien installés. Donc, ils fabriquent leurs tablettes avec des cacaos sourcés auprès de petits producteurs, dans une démarche, évidemment, durable. Et ça, c'était un petit cadeau que je voulais faire à Elvira. Cette tablette-là s'appelle Femme de Virunga.
En plus, je peux vous dire qu'Elvira a déjà des affinités avec cette chocolaterie dont elle a parlé il y a quelques années.
Je les ai rencontrés précisément quand ils étaient encore à Montreuil.
Donc ça, c'est 70% de cacao du Congo. Et c'est un chocolat donc, qui soutient une filière bio en agroforesterie et qui permet notamment de financer l'éducation des jeunes femmes là-bas et de préserver le parc de Virunga qui abrite les derniers gorilles de montagne.
Oui. Bertrand, qu'est-ce que vous pensez de ce chocolat?
Bah, ça me donne envie de voyager.
Vous êtes sur quelle origine?
Alors là, on est sur Madagascar. Et clairement, moi, j'ai pas assez voyagé. Mes semences, elles ont plus voyagé que moi. Et du coup, ça me donne envie d'aller là-bas.
Et ça vous plaît? Elvira, ça vous plaît?
Moi, je goûte le Congo 70%, qui est délicieux aussi.
Encuentro.
Encuentro. Toutes les infos, évidemment, de vos pépites d'ici aux origines d'ailleurs sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Florent Laden, on avait dit qu'on allait parler cuisine, évidemment. D'ailleurs, vous nous devez d'ici la fin de cette émission une petite recette de houmous local. Mais on va aussi parler
d'un thème qui vous obsède depuis la crise sanitaire, c'est le bien-être au travail. Mon petit doigt m'a dit que vous étiez il y a quelques jours au festival Omnivore Nord. Il se tenait au Palais des Congrès du Touquet pour faire une démo culinaire en public. Sauf que vous avez surpris tout le monde. Alors au départ, les gens étaient déçus, puis en fait, vous les avez retournés comme des crêpes. Vous avez décidé de ne pas cuisiner, de ne pas parler de l'assiette, mais de parler de ce qui se passe autour de l'assiette, et notamment cette question du bien-être au travail. Dans des temps troublés où l'on sait que c'est compliqué pour les chefs et les restaurateurs de trouver des employés, il y a souvent des pénuries de personnel, il y a des gens qui n'acceptent plus de travailler à certaines conditions, etc. En gros, comment vous avez pris ce problème par les cornes ?
Nous, aujourd'hui, on est 65, on a un projet de développement, d'agrandissement des restaurants, on va s'étendre un petit peu. En soi, on a tous goûté au fait d'être à la maison le soir, quelque chose que nous, dans la restauration, on connaît pas ou peu. Parce qu'en fait, quand on travaille pas, on va faire la fête, parce qu'on veut aussi avoir l'impression d'avoir une vie sociale et de faire partie de la société. Et là, on s'est retrouvé à la maison, et finalement, on s'est dit que c'était vraiment sympa, finalement, d'être à la maison. Forcément, quand les restaurants ont dû réouvrir, ça a été un peu compliqué de retrouver des gens. Nous, on n'a pas eu beaucoup de casse, un petit peu, comme tout le monde, mais pas outre mesure. Et on s'est posé la question de savoir, de toute façon, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis quelques années déjà, comment on peut faire pour travailler différemment et mieux, pour pas se faire mal, parce qu'une carrière, ça dure longtemps, et que c'est un métier qui est très exigeant sur le plan physique. Il faut beaucoup d'endurance, il faut aussi beaucoup d'endurance mentale. Et on en est venu au fait de passer d'une semaine de 4 jours et demi de travail par semaine à une semaine de 4 jours de travail, soit 3 jours de repos, dont 2 consécutifs. Les salaires restent les mêmes, on a dû embaucher un petit peu plus de gens.
Vous ouvrez bientôt de nouveaux établissements, Birbeuk à Béthune et à Dunkerque. Vous embauchez en gros une quarantaine de personnes. C'est ça. Et assez curieusement, par les conditions que vous proposez, par l'énergie aussi que vous insufflez à des personnels qui ont envie de vous suivre, je dirais presque au bout du monde, même si vous restez encore très local, on l'a compris, vous n'avez pas tellement de difficultés à embaucher.
Non, on n'a pas énormément de difficultés à embaucher. Dans quelques semaines, on sera plus d'une centaine à bosser. Mais après, voilà, on a mis en place cette semaine de 4 jours de travail. On a 6 semaines et demie de congés annuels par an. On a un sens aussi à notre métier. C'est pas juste donner à manger, c'est de porter le plus haut possible l'étendard flamand ou nordiste sur la scène gastronomique française, mondiale, je sais pas. Et il y a autre chose aussi qu'on a mis en place, c'est que selon moi, il est normal de faire un partage des richesses. Donc c'est que si l'entreprise gagne de l'argent, on en garde pour nous. Mais l'idée, c'est de le partager aussi entre nous.
J'ai discuté avec des gens qui vous entourent et qui disent même que Florent Laden, il a un peu tendance à s'oublier, y compris sur la fiche de paye.
Oui, je n'ai pas changé mon salaire depuis que j'ai commencé le métier. Mais c'est pas moi qui paye mon plein, c'est la société. Voilà, je suis pas à plaindre. Il y a des gens beaucoup plus à plaindre que moi, mais je pense que aussi quelque part c'est bien parce que ça permet de rester connecté à une certaine réalité et de savoir qu'en fait quand quelqu'un te demande un salaire de 1 800 € par mois, 1 700 € par mois, c'est pas pour aller faire le fond de Joe, quoi.
Quand on vous disait que le garçon avait des valeurs à la fois écologiques et sociales, c'est aussi ça la restauration en France et ça fait plaisir à voir. Elvira, en parlant d'économie sociale et solidaire, bien justement, vous nous racontez une autre belle histoire.
En parlant de valeurs écologiques et sociales, on est complètement dedans. Il y a pas mal d'initiatives qui émergent dans la région et dans la métropole et je voulais attirer votre attention sur un projet assez formidable. Qui est né dans l'écoquartier Fifcaille, un des nombreux sites industriels de la métropole qui ont été réhabilités ces dernières années. Il se trouve ce qu'on appelle un tiers-lieu. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de ce qu'est vraiment un tiers-lieu. C'est, une espèce de lieu hybride et engagé. Ce lieu s'appelle Chaud-Bouillon. Ce sont 2000 mètres carrés dévolus au bien-manger. Par bien, on entend ça au sens de bon, délicieux, mais aussi de vertueux. Alors, il faut absolument aller voir ça, tout le monde peut y aller. Ce lieu est composé de plusieurs choses, de plusieurs espaces. Il y a d'abord une ferme urbaine où on peut se former au jardinage, à la permaculture et où on cultive en ce moment des salades, des herbes aromatiques, des jeunes pousses.
De la laitue lilloise, j'espère.
Sans doute de la laitue lilloise. Lesquels produits sont cuisinés dans la cuisine commune, qui est un endroit où les habitants du quartier se retrouvent pour cuisiner, pour échanger des savoirs, des recettes. Il y a aussi une cuisine professionnelle qui est gérée par la formidable association Baluchon, qui est présente également et à l'origine en Seine-Saint-Denis. Cette cuisine professionnelle comprend notamment un traiteur solidaire et un incubateur culinaire. Un incubateur culinaire, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est une pépinière qui permet à des projets d'éclore et qui les accompagne dans leur développement.
De germer.
Voilà, de germer, exactement. Et qui accompagne justement voilà, des projets alimentaires durables et inclusifs. Les personnes qui portent ces projets ont à dispo voilà, cette cuisine professionnelle où ils se forment, ils ont accès à la cuisine, du coaching. On leur apprend toutes sortes de techniques dont ils peuvent avoir besoin pour mener à bien leur projet. Alors, un exemple de projet mené récemment par le Baluchon, c'est la cuisine de Jeannette, qui récupère des fruits et légumes invendus et déclassés du maraîchage et qui les transforme en compote et en confiture par des personnes en situation de handicap. Alors, c'est vraiment l'inclusivité, la responsabilité parfaite. C'est un très bon exemple. Et bientôt, d'ici à la fin de l'année, devrait ouvrir également à Chaubouillon un food court, pour parler un bon français, un ensemble de stands et de restaurants durables et engagés où chacun pourra aller se restaurer.
C'est très bien, un food court éco-responsable. Ouais. Et là aussi, on retrouve les infos sur notre site. Et puis un peu comme Marie-Laure Fréchet, elle vient, vous vous intéressez à une spécialité venue d'ailleurs, même si cet ailleurs, on va le voir, n'est pas très loin, et une spécialité qui s'enracine dans le paysage lillois.
On va déguster sur France Inter.
Alors, spécialité qui vient d'ailleurs, je vais pas me faire que des amis parce que son origine est plus trouble que ça. En tout cas, c'est une des choses que je préfère manger au monde.
Ah oui, ça je peux en témoigner.
Et jusqu'à récemment, je pouvais sauter dans un train pour Bruxelles ou pour Ostende, rien que pour avoir le bonheur de m'attabler et de plonger mon couteau et ma fourchette dans une croquette croustillante que j'ai vue, moi, détaillée toujours en deux dans le sens de la longueur au restaurant en Belgique. On laisse s'échapper à peine une béchamel brûlante, poivrée, nappante, richement garnie de crevettes grises et son persil frisé qui l'accompagne, voilà. C'est tellement un régal ce plat que flamands et wallons se partagent cette fierté nationale. Le plat existe évidemment dans les deux cultures et dans les deux langues. Chaque année se tient d'ailleurs à Bruxelles un concours de la meilleure croquette crevette. Le lauréat 2022 est les Brasseries Georges. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce fleuron de la gastronomie belge aujourd'hui à Lille? Mais parce que c'est aussi un fleuron de la gastronomie flamande, que Lille est une capitale de la friture, que la friterie Meunier sur la Grand Place propose, en plus de ses frites, de sa saucisse maroilles et de son filet américain, une carte de croquettes au maroilles, au bœuf épicé, mais aussi aux crevettes grises. Alors elle est ronde, paraît-il, la croquette de la friterie Meunier, alors que la croquette que j'ai mangée moi à Bruxelles est plutôt un peu oblongue. Et là, on la mange comme ça, sur la Grand Place, à brûle-doigt. Il y a deux personnes qui sont dans la salle, dans le public, et qui sont des passionnés de croquettes, mais ils n'ont pas pris le train pour Bruxelles hein, pour aller voir comment elle était. Ils l'ont mangée dans les estaminets des Flandres quand ils étaient enfants. C'est Emilien Loez et Guillaume Ployard.
Oui, levez la main. Ah bah bravo, hein, parce que j'ai goûté, je peux vous assurer que c'est quelque chose.
Ils ont circulé dans le public. Ce sont des fans de croquettes au point de lui avoir consacré une échoppe du côté de la place de la République. Ça s'appelle tout simplement la Team Croquette. Je crois que Florent, vous les connaissez. On y sert donc des croquettes, une spécialité pour laquelle ils ont passé pratiquement deux ans à réfléchir, à tester, à chiper des recettes de grand-mère, des estaminets, à faire un peu des battles de croquettes. Et ça donne ceci. Alors une croquette classique, béchamel, crevette avec un peu d'émental, ça peut se faire, et un fumet de poisson. Elle n'est pas moulée à la main, cette croquette, parce que c'est pas simple quand on veut faire un tout petit peu de volume et qu'on veut proposer une croquette à 3 euros. Vas-y pour la mouler à la main. Donc ils ont investi dans une presse, qui est une sorte de Rolls de la presse. Ils ont ouvert il y a 3 semaines, donc je suis contente de les soutenir. Ils servent donc cette croquette classique, mais aussi la Bitterpalen, qui est une croquette hollandaise, bœuf, béchamel, fond de veau, gouda et persil. Ils servent aussi une mimolette piment. Alors on part comme ça, la croquette finalement c'est un support qui permet tout, à condition qu'elle soit super bien faite, comme celle de la croquette.
Bitterpalen,
avec l'accent.
Au Pays-Bas, c'est servi dans le mur. Chez eux, ils ont un mur,
oui, c'est
tu mets une pièce, la trappe elle s'ouvre, même à 4h du matin.
Génial.
C'est excellent.
Ça sent le vécu, ça.
Quand t'es raide, ouais.
Elles sont bonnes, ces croquettes.
Ah, délicieuses. Ouais. Franchement, elles ont le bon rapport entre la croustillance et la blondeur à l'extérieur et le côté extrêmement onctueux de cette béchamel.
Généreux.
Délicieux et très bien assaisonné. Vraiment, bravo. Allez, il faut qu'on se quitte, là. Ça y est, c'est terminé. Juste
un tout petit mot sur ce petit houmous, ces petites tartines que vous avez faites avec, on le rappelle, les flageolets blancs de Flandre, de Bertrand de Vienne, cher Florent Laden.
Ok, on n'a pas révolutionné la cuisson du haricot sec, hein, donc on laisse tremper, ensuite on
cuit. C'est ça, 45 minutes à peu près à l'eau bouillante.
C'est ça, ensuite j'ai utilisé l'ail frais de Bertrand, ça a été fumé, et puis ensuite on monte ce houmous à l'huile d'ail fumée, on mixe tout et basta. Et en ce moment j'utilise ça sur un condiment, on met ça sur de l'échine de cochon de chez Grégory Delassue, que tu connais très bien, porc bio élevé en plein air, de la vraie viande, comme la viande devrait être toujours faite. Et on sert ça et on cuit ça au feu de bois.
Et ça donne ce houmous du Nord, on a le droit de dire ça ?
On peut dire ça.
Voilà, ce houmous du Nord, bravo et merci !
Merci.
Un grand merci à Lille pour votre accueil, merci au Tripostal et merci à Lille 3000, dont la 6e édition thématique Utopia, je le rappelle, se déroule jusqu'au 2 octobre à Lille et sa région. Merci à vous, cher public, merci Bertrand de Vienne pour vos magnifiques légumes et votre énergie. Merci à vous, Florent, pour tout ce que vous nous avez apporté, votre discours. Merci, Marie-Laure. À très bientôt à Lille.
À bientôt, j'espère.
Merci aux équipes de Radio France, aux techniciens Andréas Jaffré, Thomas Robin, Nicolas Mathias, Benoît Jégou. Et puis la semaine prochaine, retour dans nos studios de la Maison de la Radio. On va déguster, croque à pleines dents, un fruit qu'on adore, la framboise. Dominique, Elvira, à très bientôt.
À bientôt.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.